Bonsoir, comment allez-vous ? Que j'aime ce temps de l'Avent, A-V-E-N-T, qui est le temps de l'attente, du latin adventus, l'arrivée. Quoi de plus merveilleux que d'aller chercher quelqu'un qu'on aime à la gare et de guetter son arrivée. Je suis donc à fond pour le calendrier de l'Avent, A-V-E-N-T. Par ailleurs, j'aime les chiens et les chats au-delà du raisonnable. Mais devant ce calendrier de l'Avent pour chiens et chats aperçu dans une jardinerie à 40 euros, je suis perplexe. 40 euros les 24 croquettes derrière des portes en carton à numéros. Qu'est-ce qui se tricote là ? On a envoyé des chevaux au fond des mines, on a accroché des chiens au bout d'une chaîne, on fait vivre des chats dans des studios de 30 mètres carrés, des oiseaux en cage, et on leur fabrique un calendrier de l'Avent. Quelle sorte de monde sommes-nous en train de fond ? Quelle sorte de fond sommes-nous en train de toucher ? J'ai pardonné à mon chien d'avoir vomi dans mon sac à main, puis dans toute la voiture. J'ai pardonné à mon chat d'avoir volé le saumon du réveillon. J'ai pardonné à ce même chien de lâcher des gaz qui me laisse à penser que Ben Laden est revenu pour mener la plus terrible des guerres chimiques. Je peux ouvrir la porte plus de 5 fois de suite en pleine nuit pour faire entrer, sortir le chat. Mais je ne lui achèterai pas de calendrier de l'Avent, et au chien non plus. Pourtant, je vois bien qu'il sait se réjouir de l'arrivée d'un événement heureux, car il remue la queue à se la décrocher quand je remplis sa gamelle.
Bonjour, je m'appelle Céline. J'ai 10 ans, je voudrais savoir pourquoi les chiens remuent-ils la queue quand ils sont contents. Merci, au revoir.
Bonsoir Céline, pourquoi les chiens remuent la queue quand ils sont contents ? Claude Beata, vétérinaire, auteur de La psychologie du chien chez Odile Jacob. Alors c'est de la psychologie ça ?
C'est plus de la description du comportement, ouais. De l'éthologie. Ce qu'il faut tout de suite dire à Céline, c'est que les chiens qui remuent la queue ne sont pas toujours contents.
Ah bon ?
Donc il faut faire attention à ça. Par exemple, un chien qui va attaquer remue très souvent la queue. Donc attention, un acte tout seul, comme le fait de remuer la queue, n'est jamais significatif. Il faut toujours remettre l'acte dans le contexte, dans ce qui est en train de se passer, pour comprendre le langage du chien. Parce qu'en fait, c'est à ça qu'on va en venir. C'est-à-dire que le chien remue la queue parce qu'il ne parle pas, peut-être. Hein, et que donc, toutes ces postures font partie d'un langage. Ce n'est pas parce que le chien n'a pas de mots, qu'il n'a pas de langage, qu'il n'a pas de communication. Il va avoir tout ce qu'on appelle la communication non-verbale, qui va être très important entre les chiens. Et ils vont pouvoir communiquer, ils vont pouvoir se comprendre, puisque les chiens sont une espèce sociale, ils ont besoin de communiquer entre eux, ils ont besoin de communiquer leurs émotions positives, leurs émotions négatives, et ils vont le faire avec des vocalises. Donc on sait que les chiens peuvent japper, peuvent gémir, peuvent aboyer, peuvent hurler, et ça va avoir des significations différentes. Et puis ils vont avoir surtout beaucoup de postures, et ces postures vont leur permettre de communiquer avec une grande économie d'énergie. Le chien, c'est un animal social, et c'est un prédateur. Donc, c'est-à-dire que les chiens vivent toujours ensemble, en meute, dans un modèle naturel. Donc, si pour régler la hiérarchie à l'intérieur de la meute, il fallait se battre à chaque fois, on pourrait penser qu'il n'y aurait plus de chiens, hein, parce qu'il y aurait eu beaucoup de dégâts et beaucoup de blessures. Donc, en fait, la communication va se ritualiser autour de certaines postures, autour de certains privilèges par rapport à la nourriture, par rapport à l'espace, mais où le simple fait parfois de se regarder et se mettre dans une certaine position va permettre de comprendre que ce chien-là est le dominant du groupe et que donc il envoie un message clair. Alors, par exemple, très classiquement, le chien dominant va pointer les oreilles, regarder fixement son adversaire ou son partenaire.
Son interlocuteur.
Son interlocuteur, non pas dans les yeux, mais de façon un peu, mais ça va être une interprétation humaine, j'allais dire dédaigneuse, de façon un peu hautaine, par-dessus la tête sur la croupe, et puis il va être très rigide. En revanche, celui qui veut exprimer qu'il ne veut pas rentrer en compétition, que lui se sent soumis, va détourner la tête, va s'affaisser un petit peu sur les pattes, va mettre la queue entre les jambes, et à ce moment-là, ça veut dire
Ok, c'est bon.
Et donc, avec cette ritualisation-là, avec quelques secondes d'interaction, il n'y a pas besoin de se battre, les choses reviennent à leur place. Et plus la meute est stable, plus ces signaux deviennent de petite intensité, et il faut être un bon observateur pour les voir. Alors pour en revenir à cette queue qui remue et que Céline dit, est-ce que ça veut toujours dire que les chiens soient contents ? Non. Parce que par exemple, on peut prendre 3 exemples. Un exemple, il y a un chien en face de vous et il a l'avant du corps aplati au sol, il a les fesses en l'air et au-dessus de ses fesses, il y a une queue qui remue.
Comme quand on va se promener,
très gaiement. Ouais. Ça, c'est un appel au jeu ou à la promenade. Là, il n'y a pas de doute, le chien est content. En revanche, s'il vous regarde fixement, il a les oreilles pointées, il a la queue qui remue, c'est pas forcément du plaisir. Dans tous les moments d'émotion, de tension, il peut y avoir la queue qui remue comme ça. Et puis un chien qui a peur, il va avoir la queue qui remue très vite, mais elle est plus du tout à la même position. Généralement, elle est entre les jambes, plaquée sur le ventre, et là, elle remue très vite avec une position affaissée. Pour bien comprendre ce langage, il faut voir l'ensemble de la situation.
Voilà qui est bon à savoir. Merci, docteur Claude Beata. Vous connaissez le principe de l'émission Les Petits Bateaux. Des enfants nous posent des questions et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Lénie, j'ai 8 ans et j'aimerais bien savoir, quand on écoute une chanson, pourquoi on l'a toujours dans les oreilles? Merci, au revoir, répondez à ma question.
Répondez à ma question, tu as raison, il faut demander pour obtenir, Lénie. Surtout que ta question est la question de beaucoup de monde. Emmanuel Bigan, vous êtes enseignant-chercheur, titulaire de la chaire Musique Cognition Cerveau à l'Université de Bourgogne.
C'est une très bonne question, Lénie. La musique a un rapport avec la mémoire qui est tout à fait particulier. Elle entre dans des réseaux dans notre cerveau qui gère l'information, qui mémorise l'information, qui sont extrêmement puissants. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de nos souvenirs de vie sont associés à des morceaux de musique. Quand tu seras plus grande, tu pourras te rappeler « Ah, ça, j'écoutais ça quand j'avais 8 ans, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 16 ans, je me suis marié peut-être avec telle musique, etc. » Notre vie est jalonnée d'histoires musicales. Et ça prouve que la musique est vraiment dans les réseaux de la mémoire. Alors parfois, ça pose des petits problèmes, ce qu'on appelle les parasites musicaux. C'est-à-dire qu'il y a des chansons qui, de par leur structure souvent très simple, s'imposent à notre mémoire et tournent dans notre tête, même si on voudrait plus les entendre, parce qu'on en a marre d'entendre toujours la même chanson. Et en français, on parle de parasites. Les Américains parlent de vers musicaux. Moi, je trouve qu'un parasite, c'est plus sympathique qu'un vers.
Vers comme un asticot.
Comme un asticot, worms en anglais. Mais ça veut dire que la musique a ce pouvoir de rester scotché dans notre attention. Et ça vient de la structure de la musique, ça vient aussi de l'état psychologique des personnes. C'est souvent quand on est fatigué, si on est malade, si on a de la fièvre, si on est préoccupé, on n'a pas exactement les mêmes énergies intérieures. Et donc, parfois, la musique s'impose malgré notre volonté. Chez certaines personnes, c'est très embêtant parce qu'elle prend la place de notre attention. Donc, si on a un devoir en classe à faire et qu'on a cette musique qui tourne dans la tête, on a moins d'énergie pour faire le devoir. C'est un phénomène très surprenant. Il n'y a pas beaucoup de stimulations qui ont ce pouvoir de s'imposer à ta mémoire. La musique en a un et parfois c'est vrai que c'est gênant. Il y a de la recherche dessus pour essayer de comprendre pourquoi ils sont déclenchés et surtout comment on peut s'en débarrasser et c'est pas si simple.
Et autrefois, ça me rajeunit pas de dire ça, mais comme il y avait des 45 tours. Et quand on avait un 45 tours, on le remettait, alors que ça demandait quand même à chaque fois une petite manipulation. Cette espèce d'envie de consommer en pile, comme ça.
Alors ça c'est encore autre chose, c'est-à-dire que l'envie de consommer en pile, c'est un peu une addiction. Et on a montré que le plaisir musical activait exactement les mêmes structures du cerveau que les plaisirs pour lesquels on est addictif. Alors évidemment, c'est une addiction qui n'a absolument aucun problème de santé, puisqu'il n'y a pas d'agression de la structure du cerveau, d'agression du corps. Mais par contre, on a le mécanisme, c'est exactement le même système, c'est le noyau accumbens qui déclenche de la dopamine, pour être scientifique. Et une fois qu'on a eu ça, on a envie à nouveau d'avoir cette expérience. Donc on remet le 45 tours et on peut le mettre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Un petit peu comme quand on mange le sucre, qui est une autre forme d'addiction.
Et c'est le noyau comment ?
Le noyau accumbens, c'est le noyau qui est responsable des sensations de plaisir parce qu'il déclenche de la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur qui rentre dans les circuits du plaisir. Donc vous avez de la dopamine dans des tas de situations extrêmement plaisantes, y compris pour l'écoute musicale.
En ce moment, des airs dans la tête, on en a avec les chants de Noël. Hein. Jingle Bell, non, c'est pas un chant de Noël que nous vous proposons tout de suite. Welcome to the land of the permanent sun, where the flowers are melted and the future is fun. The freeway lizards are my feelings so good, on a one-way trip back to West Hollywood. Let's go. It feels so
flies.
C'était Gorillaz et Beck.
Les petits bateaux sur France Inter.
Alors, il est couvre-feu moins 20, passé de 2 minutes d'ailleurs. Nous sommes le 20 décembre 2020, le dernier jour de l'automne. Demain, ce sera l'hiver.
Bonjour, je m'appelle Léo, j'ai 16 ans et demi et je voudrais savoir ce que veut dire .com. Merci.
Bravo Léo. C'est une bonne remarque, on se le demande tous. Ce que veut dire .com, Michel Baudouin Lafont, vous êtes professeur d'informatique, entre autres à Paris Sud.
Alors .com, ça veut dire commercial.
Ah bon ?
C'est tout bête.
Pourquoi j'y ai jamais pensé ?
Alors, il faut savoir que lorsque le réseau Internet a été inventé, il fallait une façon de repérer les ordinateurs connectés au réseau. Et on leur a donné, sans grande imagination, des numéros. Alors, on entend parfois parler du numéro IP. Chaque ordinateur a un numéro unique qui est une adresse faite de 4 chiffres. Par exemple, je regardais sur mon laboratoire le site web. Il est sur un ordinateur dont le numéro, c'est 129.175.15.11.
C'est pas mal.
Bon, c'est pas très facile à mémoriser. Non. Et donc, on a inventé un système qu'on appelle le système de nom de domaine, le DNS en anglais, qui permet d'associer à ces numéros des noms. Donc, mon laboratoire, c'est LRI.fr. Ici, c'est franceinter.fr. Alors, à l'origine, en fait, le .com, d'où vient-il ? À l'origine de la création de l'Internet et de ce système de nommage, il y avait 6 noms à la fin des adresses. Il y avait .1000 pour les militaires,
oui.
.gov pour le gouvernement américain, .edu pour le système d'éducation et notamment les universités, qui étaient très utilisatrices de l'Internet, et donc le fameux .com pour toutes les entreprises. Il y avait aussi .net et .org pour des organismes non gouvernementaux et qui n'étaient pas des entreprises.
Et
puis rapidement, l'Internet s'est développé. Et donc, lorsqu'il s'est internationalisé, eh bien, on a ajouté tous les noms des pays. .fr, .de pour l'Allemagne, etc., etc.
.fr, c'est France, alors.
.fr, c'est France. Et en fait, dans chaque pays... Donc, cette dernière partie de l'adresse, c'est ce qu'on appelle un nom de domaine de niveau zéro. Et pour chaque pays, il y a un organisme dans le pays qui est chargé ensuite de distribuer les noms avant le .fr. Donc, franceinter.fr a été, à un moment donné, déclaré à cet organisme pour l'associer aux ordinateurs de France Inter. Alors, ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'évidemment, quand il s'agit de donner des noms, parfois, ça donne lieu à des contentieux, parce que quelqu'un peut avoir acheté franceinter.fr avant que la radio l'achète. Et donc, il y a des règles qui sont organisées par un organisme international qui s'appelle l'ICANN, qui permet de résoudre ces conflits. Et puis, récemment, en fait, le système de nommage a encore été ouvert, ce qui fait que l'on peut acheter maintenant les noms de niveau zéro. Donc, vous avez des sites, par exemple, .paris. Ce n'est pas .paris.fr, c'est .paris.
Quand vous dites acheter, l'argent va chez qui ?
Ah, c'est une bonne question. l'argent va à l'ICANN, qui utilise pour financer ses activités. C'est mis aux enchères aussi, ça peut valoir très cher. Donc voilà, c'est un business de plus sur l'Internet.
Merci Michel Baudouin-Lafont. Je vous disais que demain, ce sera l'hiver. Ce sera également le jour le plus court de l'année à Paris. Le soleil se couchera à 16h55. Mais attention, attention, après-demain, progrès, 16h56.
Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 8 ans. Et je voudrais savoir pourquoi les seins des femmes après l'allaitement ne se dégonflent pas. Au revoir.
Merci Hugo. Un homme formidable qui s'intéresse au sein et à l'allaitement. Que c'est beau. Chantal Birman, vous êtes sage-femme. Pourquoi les seins des femmes ne se dégonflent pas après l'allaitement, demande Hugo. D'abord, est-ce qu'il a raison ?
Alors, il n'a pas tout à fait raison. C'est-à-dire que pendant l'allaitement, les seins commencent à se dégonfler. C'est-à-dire que le moment où les seins sont les plus gros, c'est au moment de la montée de lait. Et c'est là où il y aura le moins de lait dans les seins. C'est-à-dire que c'est quasiment inversement proportionnel. La taille du sein n'a rien à voir avec le lait.
Ah bon?
Et le fait que les seins se dégonflent, justement, pour reprendre les termes d'Hugo, là, c'est la deuxième raison pour laquelle les femmes arrêtent d'allaiter. Parce qu'elles ont l'impression qu'elles n'ont plus de lait. Pourquoi? Parce que non seulement les seins vont se dégonfler, mais encore vont-ils être un peu plus mous, hein, de plus en plus mous au fur et à mesure de la durée d'un accouchement. À 6 mois, on peut avoir une poitrine qui est un petit peu inférieure en taille à la poitrine qu'on avait avant d'être enceinte. Voilà. Et donc, dans beaucoup de têtes de femmes, cette diminution de volume de la poitrine leur fait penser qu'elles n'ont plus de lait. Alors que la seule référence pour savoir si elles n'ont plus de lait, ben, c'est de peser le bébé. Si le bébé grossit, elle a forcément du lait.
Donc, on peut avoir du lait avec des petits seins et pas de lait avec des gros seins.
Exactement. On ne peut pas quasiment n'avoir pas de lait. C'est rarissime.
Ah bon ?
Si on n'a pas de lait, si on fait un allaitement mixte. C'est-à-dire si on complète l'allaitement maternel par des biberons de lait artificiel. C'est rarissime, à moins qu'il y ait une malformation de la glande mammaire. C'est pour ça que je vous dis que c'est rarissime. C'est le bébé qui fabrique le lait. Et c'est ça qui est compliqué à penser. C'est que les seins sont à la mère et lui appartiennent. C'est-à-dire que ça appartient à la mère de savoir si elle veut allaiter ou pas allaiter, de donner ou pas donner les seins. Par contre, le lait appartient à l'enfant. C'est lui qui le fabrique. Sans enfant, vous auriez pas de lait. Il fabrique et la quantité et la qualité et l'espace entre les tétés et comment il va dormir par rapport à tout ça.
C'est le
bébé qui fabrique son lait. Donc, c'est ça qui est compliqué parce qu'on a toujours l'impression que c'est la maman.
Donc, faut l'écouter.
Non seulement il faut l'écouter, mais il faut croire à un truc qui est incroyable, c'est à sa compétence de faire monter le lait et de faire les bonnes quantités, la bonne qualité. Un bébé est compétent. Et entre autres, dès qu'il naît, il sait téter. Et il va améliorer sa succion avec sa mère au fur et à mesure de l'allaitement pour que sa mère soit de plus en plus satisfaite de ce qui se passe dans l'allaitement. C'est un truc qui est absolument incroyable.
Ils s'accordent tous les deux.
Non seulement ça s'accorde, mais il va y avoir une sensualité qui va se développer. Et la France est un des derniers pays au monde pour l'allaitement maternel. Pourquoi ? Parce que probablement, on n'a pas bien compris que les femmes avaient 3 organes sexuels, le vagin et 2 seins. Il se trouve que les 2 seins des femmes sont très développés. Voilà. Et que c'est pas dit. Et que le plein fonctionnement de ces 2 glandes-là, ben c'est au moment de l'allaitement.
Et c'est vrai que les seins sont effectivement source de plaisir et pas source de tracas, de complications, de je m'y prends mal, de tatati tatala.
Oui, et puis surtout, le plaisir avec un enfant, c'est un plaisir qui ne se retrouvera pas après. Elles ont découvert quelque chose de plus dans leur corps et ce quelque chose de plus, elles vont vivre avec. Et donc, ça va se répercuter sur leur sexualité ultérieure.
On sent bien que Chantal Birman, la sage-femme, milite entre guillemets pour l'allaitement maternel. Moi, j'en ai gardé personnellement un excellent souvenir, mais je suis aussi entourée de gens magnifiques qui ont été nourris au biberon.
C'est un pont perdu sur l'Atlantique. C'est exotique, c'est exotique. C'est un grand secret sous les palmiers. C'est fantastique. Je pourrais te montrer. Pour y aller, c'est très facile. Ferme les yeux et laisse le centre mêler tes cils. Déjà, nous y voilà. Bienvenue sur la terre. Ce n'est pas Paris, et ce n'est pas Londres. Ce n'est pas Berlin, ni même Hong Kong. Pas Tokyo, et il fait si chaud. Bienvenue sur la mer. On est si bien.
Berlin, San Paolo, pas Tokyo. Je fais si chaud. Je t'emmène sur la baie.
C'était Clara Luciani sur France Inter où vous écoutez Les Petits Bateaux. Que savons-nous des Romains à part ce qu'Astérix nous en a dit, qu'ils sont fous, mais pas seulement.
Bonjour, je m'appelle Joseph, j'ai 6 ans et demi et je voudrais savoir quelle est la différence entre les Romains et les barbares. Merci de me répondre, au revoir.
Quelle est la différence entre les Romains et les barbares ? Yann Le Boeck, vous êtes professeur émérite de l'Université Paris-Sorbonne. Vous avez écrit de nombreux livres. Le dernier s'appelle « La vie quotidienne des soldats romains à l'apogée de l'Empire » et c'est édité chez Talendier. Les Romains, justement, quelle est la différence entre les Romains et les barbares, demande Joseph ?
Eh bien, Joseph a posé une question très intéressante et à laquelle il est, pour une fois, assez facile de répondre. Il faut essentiellement définir le mot barbare pour l'opposer aux Romains. Barbare, c'est une onomatopée. C'est-à-dire, c'est ce que les Grecs et les Romains entendaient quand un personnage venu d'un pays exotique leur parlait. Ils entendaient barbare, 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 et ils les appelaient les barbares, ceux qui parlent une langue que nous ne comprenons pas.
Ça, c'est génial.
Oui, et ce qui est encore plus génial, c'est que face à l'étranger, donc aux barbares, il y a a priori deux attitudes possibles. Ou on en a peur, on se demande ce qu'il va préparer contre nous, ou au contraire, on le trouve sympathique, on se dit va nous apporter quelque chose. Et les Grecs, comme les Romains, ont eu beaucoup d'attrait pour les barbares. Il y a même un livre qui a été écrit par un de mes collègues qui s'appelle « Sagesse barbare » au pluriel, parce qu'il pensait que les barbares apportaient quelque chose à l'Empire. Les Grecs, les Romains, donc, les ont étudiés. Et le père de l'histoire et de la géographie à la fois, qui s'appelait Hérodote, qui était grec, qui a vécu au 5e siècle avant notre ère, a fait le voyage de l'Égypte pour voir ce que pensaient les Égyptiens, ce qu'ils pouvaient leur apporter, quelle était leur religion. Et il a fait un tableau tout à fait élogieux de cette civilisation, qui était une civilisation barbare, ça, il ne le cache pas, il le dit. Alors, cette chose, cette sympathie, a duré très longtemps. Et puis, au 3e siècle après Jésus-Christ, tout cela a changé. Parce que des barbares ont attaqué l'Empire romain, ils ont traversé la frontière pour faire du pillage, uniquement, essentiellement. Et puis, en faisant du pillage, ils ont commis des actions extrêmement violentes. Ils ont tué des gens qui n'étaient pas des ennemis, mais ils les ont tués pour le plaisir, qui étaient des gens qui n'étaient pas dangereux. Ils ont violé des femmes, ils ont incendié des constructions. Et à partir du 3e siècle après Jésus-Christ, le mot barbare a eu une double signification. C'est d'abord quelqu'un dont on ne comprend pas le langage, et ensuite c'est quelqu'un qui est cruel. Et là, il y a un changement complet d'attitude à l'égard du barbare. Ce n'est plus l'homme qui peut apporter quelque chose, c'est l'ennemi qui apporte, oui, quelque chose, mais des destructions, la mort et toutes sortes de violences.
C'est intéressant, hein, le barbare est celui qu'on ne comprend pas. Merci Yann Le Boeck. Voici un cadeau à 20 € pour les filles et les garçons de 10 à 100 ans. Il enjolivera et le jour de Noël et les vacances de Noël. Il s'agit de 30 destins d'aventuriers édités chez Paulsen Jeunesse. On y trouve des vivants, Thomas Pesquet, James Cameron, Aliénor Le Gouvello, mais aussi Jack London, Ernesto Che Guevara ou Henri Guillaumet. Vous savez, ce pilote, toi tu connais Stéphane Coum, qui pilote les petits bateaux et qui pilote tout court. Henri Guillaumet, qui n'aurait jamais dû décoller ce 13 juin 1930 en pleine tempête d'hiver pour relier Buenos Aires à Santiago du Chili. Au-dessus de la cordillère des Andes, son avion est violemment secoué, ballotté dans tous les sens et il va s'écraser sur la montagne. Ouf, il arrive à se poser. Mais il y a de la casse. Il s'enferme dans son avion, s'enroule dans son parachute, attend les secours. Hélas, Antoine de Saint-Exupéry qui le cherche le survole et ne le voit pas. Henri Guillaumet va quitter son appareil, affronter sans équipement par moins 40 degrés la montagne. Il s'est vu mourir plusieurs fois. Comment a-t-il tenu 6 jours et parcouru 60 kilomètres dans cet enfer avant qu'on ne le retrouve enfin? C'est lui qui a dit à Saint-Exupéry « Ce que j'ai fait, je le jure, aucune bête ne l'aurait fait. » Ces petits bateaux sont à podcaster sur franceinter.fr. Merci Marjorie Devoucaux, Eliane Gérard-Noël Bréham, Johanna Gabric, Stéphane Combe, Jean-Baptiste Audibert.